Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, l'émission de Radio Rancel qui vous permet chaque semaine d'entendre la parole de notre évêque sur des sujets divers et variés, des sujets religieux ou de société. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe, heureux de vous retrouver, moi aussi, nos auditeurs.
Alors nous allons évoquer aujourd'hui le nouveau missel, le temps de l'Avent bien évidemment. Peut-être dire deux mots de votre retraite à l'abbaye de Sept-Fonds il y a quelques temps déjà. Mais avant toute chose, j'aurais voulu vous donner votre sentiment sur une figure émergente de la politique française, c'est Valérie Pécresse, puisque pour la première fois dans les sondages, elle apparaît devant Emmanuel Macron au second tour.
Alors,
c'est une Parisienne.
Je ne pensais pas que vous me feriez commencer par de la politique, cher Christophe. Moi, je suis ça avec intérêt, mais un peu de distance tout de même, parce que je suis évêque et donc je ne suis pas un homme politique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce parti LR, il y a eu finalement une forme de communion, on pourrait dire, pour faire une primaire, ce qui n'était pas gagné d'avance. Ils ont fait cette primaire de manière, semble-t-il, quand même respectueuse les uns des autres, apportant des talents différents. Personnellement, je trouve que cette femme, Valérie Pécresse, est une femme qui a une certaine figure politique. Moi, j'étais sur Paris avant, elle était depuis longtemps responsable politique en Ile-de-France, donc elle a une expérience du terrain, voilà.
Vous avez eu l'occasion de la croiser, non ?
Non, je ne l'ai pas rencontrée. Moi, j'écoute un peu ce qu'on dit. C'est vrai qu'il y avait quatre hommes face à elle et elle gagne. C'est un signe quand même assez positif pour elle et je pense pour la démocratie. Après, que fera-t-elle ? Je ne sais pas. Ça ouvre beaucoup l'élection. L'élection devient du coup de plus en plus surprenant, peut-être, oui. Ou comment est-ce qu'on peut dire ça, un peu, peut-être pas excitante quand même, enfin, ouverte, avec des visages différents, des gens qui sont équilibrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, on a entre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, après à gauche, un peu moins, peut-être l'écologie, des gens qui sont un peu dans une dernière ligne droite, un peu ensemble, quoi. Ils sont un peu un niveau de voix presque équivalent. Donc ils auront à proposer un projet pour la France que je regarderai quand même attentivement parce que je pense que c'est tellement important de voter. On a eu ce droit de vote en France depuis des années, ce que beaucoup de pays se voient interdisent à leurs propres citoyens ou quand ils l'ont, c'est pas respecté du tout. Nous, on l'a. Je pense que c'est un devoir de voter. Mais c'est assez ouvert par rapport à il y a d'autres époques où c'était moins ouvert. Donc on verra. En tout cas, je leur souhaite à tous bonne chance, comme on dit.
Oui. Et puis, on n'a jamais eu de femme présidente de la République depuis. En tout cas, à ma connaissance, depuis le début de la 5e, en tout cas, c'est sûr.
N'y voyez pas un avis politique, s'il vous plaît. Oui. Mais moi, si c'était une femme demain qui dirige la France, je serais tout à fait enthousiaste comme un homme. Par rapport à cette question, je n'ai pas de problème dans ma tête.
Oui. On va parler peut-être de votre retraite à l'abbaye de Sept-Fonds. Vous êtes un homme public en tant qu'évêque de Chartres, un homme qui est constamment en contact des autres. La retraite, c'est un événement, un moment important dans votre
vie. Oui, alors c'est l'abbaye de, on dit Sept-Fonds, ça veut dire, en fait, ça veut dire sept fontaines au départ, je crois. C'est un lieu que j'aime bien, qui se trouve donc près de Nevers, où il y a quand même 80 moines. Et beaucoup d'entre eux sont des jeunes. C'est une chartreuse, donc des cisterciens. Ça veut dire que ce sont des moines qui ont quand même une vie simple et surtout très silencieuse. Donc ils ont beaucoup de temps de prière au cœur. Ils commencent à 3h30 le matin. Je vous avoue que je ne me levais pas pour l'office de la nuit parce que c'était trop dur pour moi. Je me couchais relativement tôt. Eux se couchent à 8h pour se lever à 3h. Donc,
c'est un rythme à trouver.
C'est un rythme différent du nôtre, assurément. Mais j'aime beaucoup leurs offices, sont chantés en français et en latin, en grégorien, les offices qui rythment la journée, donc le matin très tôt, les laudes, la messe, puis l'office de tierce vers 9h, sexte vers midi, nonne vers 15h, les vêpres en fin de journée et les complis à 19h30. Donc c'est une vie que j'aime bien. Moi, j'ai pu écrire, j'ai pu marcher, j'ai pu dire mon chapelet dans la nature. Il y a un très grand domaine agricole, puisqu'ils travaillent la terre, ils font des confitures, ils font aussi beaucoup de la germaline, c'est sur la graine, ils prennent le son, où ils prennent le germe, ils font des mélanges, et c'est des additifs nutritionnels qui sont intéressants, en tout cas, ils vivent de ça. C'est leur gagne-pain, on peut dire. Ouais. Voilà. Donc j'aime ce lieu qui est où je suis accueilli en plus très gentiment.
Et vous n'étiez pas loin de Bernadette, de Saint-Bernadette, puisque
c'est pas loin de Nevers, mais ouais. J'ai pas pris le temps. Ouais. Je suis resté 5 jours sur place, oui, pour profiter de ce silence et de méditer.
Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle à présent du nouveau missel. Rappelez-nous ce qu'est un missel, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui ne savent pas trop ce que c'est.
Voilà, alors en fait, quand on célèbre la messe, on a plusieurs livres qui servent aux différents acteurs de la messe. Le missel est le livre qui sert aux célébrants, donc aux prêtres qui célèbrent, ou à l'évêque comme moi. On a le lectionnaire qui comporte les lectures, donc qui sont lues avant l'évangile. Et du coup, parfois, on a un évangéliaire, qui est un livre qui comporte les évangiles, qui est vraiment le texte central d'une messe, qui raconte l'évangile racontant la vie et les paroles de Jésus directement. Donc l'évangile, c'est le cœur de la Bible pour nous. Le missel est un livre qui permet aux prêtres de dérouler le rituel, qui contient donc des prières, qui contient toute la prière de consécration qu'il va utiliser pour... le centre de la messe, la consécration du pain et du vin qui deviennent par l'œuvre de l'Esprit Saint le corps et le sang de Jésus. Alors on a une version latine du missel romain, qui est un missel qui a été revisité après le Concile Vatican II, donc à la demande du pape Saint Paul VI. Ce missel latin, c'est un peu la référence de cette forme normale, ordinaire de la messe. Et il y avait une traduction française qui avait été faite à l'issue de ce concile, peut-être qui avait besoin d'être approfondi, d'être relu, d'être revisité, avec à la fois des critères de théologie et biblique, donc voir si les expressions qu'on prend dans les prières, par exemple, reflètent bien le sens de l'Écriture sainte, reprennent bien les bons mots. Il y a aussi le fait que notre vocabulaire change, évolue un peu. Alors en même temps, il ne s'agit pas d'en faire un livre avec du vocabulaire, vous voyez, un peu comme ce vocabulaire anglais que maintenant, oui. Ou des mots un peu nouveaux qu'on invente. Il s'agit de rester dans une forme de tradition, mais qu'il soit compréhensible par les gens, parce qu'au fond, la langue du cœur, c'est quand même la langue maternelle. Moi, quand je parle avec mon cœur à Dieu, c'est vrai que ça m'est plus facile de parler en français, parce que le français, c'est la langue de mon cœur, c'est la langue que ma mère m'a enseignée quand elle me nourrissait, c'est la langue par laquelle j'ai appris à parler. Et puis, alors, il faut savoir que cette traduction, enfin, ou cette retraduction du missel de la messe sert aux pays francophones. Et que, par exemple, au Canada, en Suisse, en Belgique, en Afrique, on prend ce même missel, mais les mots ont parfois un sens un peu différent. Par exemple, nous disions facilement « prier frère, mes frères pour ». On parlait des frères, parce qu'en français, le mot « frère » englobe au fond tous les êtres humains. Au Canada, il faut dire « frère et sœur ». Ce qu'on dit d'ailleurs en latin, on disait « les servants et les servantes du Seigneur ». Donc on prenait les deux mots, masculin, féminin. Donc maintenant, on a plutôt favorisé les deux mots masculin et féminin pour frères et sœurs. Il y avait d'autres expressions qui étaient importantes de revaloriser, le mot du sacrifice par exemple, qui est un mot qui s'applique à nos vies dans le sens que nous offrons notre cœur, notre vie au Seigneur. Saint Paul parle d'un sacrifice de louange, un sacrifice du cœur, vous voyez, qui veut aimer Dieu, qui veut le bénir et qui ensuite cherchera à aimer les autres. Donc ces mots ont été parfois ajoutés ou en tout cas mis en valeur. Oui. Donc on a un beau livre qui nous sert à célébrer la messe et moi j'avoue que je suis très content parce qu'il a fallu 10 ans de travail, oui. C'était long, avec beaucoup d'experts.
Ce sont des experts, des théologiens.
Théologiens, des biblistes, des liturges, comme on dit. Et le point intéressant d'avoir ce livre commun, c'est que la messe... Vous voyez, c'est pas je ne vais pas l'improviser, moi, à ma façon, avec ma sensibilité. Sinon, demain, chaque prêtre fera un peu son style. Par contre, je vais essayer de la prier, de l'offrir à Dieu et d'inviter tous les fidèles qui sont là à y participer activement, à s'associer aux prières, à s'offrir eux-mêmes. Je crois que c'était bien. Je crois que ça va nous aider dans les paroisses à repenser. Je sais que, par exemple, le père Michel Boisaubert, dans sa paroisse, a fait une après-midi sur la liturgie. Beaucoup de gens sont venus, environ 60 personnes, pour c'est en Beauce, près de Voves ou Viabon, pour justement prendre plus connaissance de ce que c'est que d'être à la messe.
Ouais. Il nous reste peu de temps, à peine 3 minutes. Je voudrais qu'on parle quand même un peu du temps de l'Avent. On est dans le temps de l'Avent.
Absolument.
C'est un temps extrêmement important de préparation à la naissance du Sauveur. C'est pas rien.
Voilà, c'est le temps ces 4 semaines qui commencent pour nous ce qu'on appelle l'année liturgique. On recommence le cycle annuel au début de l'Avent. Donc en général, c'est fin novembre, début décembre. C'est maintenant la 2e semaine qui sera dimanche prochain le dimanche de la joie, un dimanche où les prêtres peuvent être en rose d'ailleurs pour dire cette joie. Donc c'est vraiment un temps de joie, mais un temps d'une joie intérieure, une joie qui n'est pas forcément une sorte d'exaltation, un peu à l'image de ce qu'est Noël. Noël, cette fête merveilleuse où on se rappelle que Dieu est venu parmi nous, s'est fait homme par Marie, il naît dans une crèche, dans la pauvreté d'une étable entre son père Joseph, père donc qu'on pourrait dire adoptif, on pourrait dire putatif, mais c'est adoptif pour être plus compréhensible, sa mère Marie qui l'enfante, viennent des bergers, viennent plus tard les mages le visiter, ils viennent de loin. Donc c'est une fête de l'intériorité, de la famille, de la douceur, on peut dire. Et le temps de l'Avent permet de préparer son cœur, comme en même temps on va préparer sa maison avec une crèche, on va préparer quelques décorations, mettre un sapin. Enfin, c'est la joie des familles de voir des maisons décorées. Je pense qu'il faut vraiment se rappeler que Noël, c'est ça. Noël, c'est Dieu vient parmi nous. Dieu se fait petit, ce qui est un grand mystère. Ce Dieu tout-puissant qui crée cet univers se fait proche de nous pour nous parler au cœur, nous rejoindre dans nos questions, nos souffrances parfois, nous dire sa confiance, nous dire que nous sommes aimables et, au fond, nous révéler sa parole, son visage.
Oui. On peut le préparer comment? En priant, méditant, lisant, en jeûnant, par exemple?
Est-ce qu'il y a un jeûne? C'est pas tellement le temps du jeûne. Par contre, ça peut être un temps de sobriété, vous voyez, de moins faire la fête, peut-être. Prendre le temps de prier, peut-être le chapelet, pour lire la parole de Dieu, lire l'évangile, ça me paraît bien comme attitude. Et puis dans les applications comme AELF, qui est l'application un peu officielle des textes de l'Église, mais d'autres comme Prions en Église, on trouve les textes de chaque jour, les textes de la messe, on peut les lire. On lit beaucoup Isaïe, par exemple, le prophète Isaïe, qui annonce un Messie, un Sauveur. Et on reconnaît dans ces prophéties de Isaïe, qui sont anciennes, on reconnaît l'avènement de Jésus. Donc on peut relire ces textes tranquillement. Et puis peut-être, bien sûr, les enfants ont un calendrier de l'Avent, souvent, où chaque jour on ouvre une petite fenêtre pour y trouver une parole de Dieu. Parfois on trouve un chocolat, ce qui est bien aussi. et puis préparer sa maison, au fond, à vivre un Noël de joie, de simplicité, en accueillant peut-être un pauvre, quelqu'un, un proche, un voisin qui est seul.
Merci beaucoup, Monseigneur. Je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous pourrez réécouter Libre Propos sur notre site www.radiorancel.fr. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne semaine à toutes et à tous.